SBS French. Mardi, jeudi, samedi et dimanche, à 13h ou à tout moment en ligne.
Eh bien, dans les studios aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir notre nouvel ambassadeur de France, en Australie, Christophe Penaud. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue déjà à SBS.
Merci.
Je crois que vous êtes déjà venu, vous avez déjà visité, mais on ne vous a pas eu à l'antenne.
Exactement.
Alors, parlez-nous un petit peu de vous. Vous nous venez de Malaisie, vous étiez donc en poste en Malaisie précédemment. Comment vous abordez cette mission en Australie ?
Bah écoutez, d'abord, merci de m'avoir invité à parler avec vous aujourd'hui. Je suis très heureux d'être ici. J'avais visité cette radio extraordinaire qui diffuse dans combien ? Plus de 70 langues.
Oui, tout à fait. Ouais.
Je trouve ça remarquable. Et puis, vous venez de m'expliquer par ailleurs, et ça, c'est vraiment au cœur de ma mission, que les programmes en français progressaient, ce qui me confirme dans l'idée qu'il y a un vrai marché ici pour l'apprentissage du français et la langue française et qu'elle est en progression. Donc moi, je suis arrivé ici il y a très peu de temps, je suis encore nouveau, j'ai pris mes fonctions à la fin du mois de juin. J'arrive de Malaisie où j'étais ambassadeur. Avant ça, j'ai un parcours qui était plutôt asiatique, j'ai servi au Vietnam. Deux fois au Japon et donc en Malaisie. Et à part ces postes asiatiques, j'étais aussi à Londres et à Ottawa. Donc finalement, il y a une certaine logique.
Il y a un mélange qui fait que vous êtes bien ici en Australie.
Oui, je suis bien ici. Je suis très heureux de retrouver ce monde anglo-saxon que je connais un peu, mais qui est évidemment différent. Donc j'ai encore beaucoup à apprendre.
D'accord. La problématique sur la représentation de la France en Malaisie et en Australie, il y a des points communs ? Vous voyez déjà des points de convergence ?
Oui, il y en a. Bah, déjà, il y a les sous-marins. On a une coopération beaucoup plus modeste. Hein. Évidemment, la dimension n'est pas du tout la même. On a une coopération avec la Malaisie dans ce domaine également. Non, l'Australie, depuis longtemps, est un pays qui s'intègre dans la zone Asie-Pacifique, qui est à l'initiative dans cette zone. Donc c'est intéressant pour moi qui suis un peu un spécialiste, si j'ose dire modestement, des questions asiatiques, d'avoir cet angle australien. Je pense que l'Australie a des relations très importantes avec beaucoup de partenaires en Asie du Nord-Est notamment, Chine, Japon, Corée, mais aussi en ASEAN. Oui, la Malaisie, bien sûr, des points communs, pays du Commonwealth, ancienne possession britannique, politique de défense qui pour nous, Français, offre beaucoup d'opportunités de convergence, de coopération, de vente d'équipements, etc.
D'accord. Les points principaux dont l'ancien ambassadeur, donc Christophe Le Courtier, vous a parlé, je sais qu'au cœur de son mandat à lui, c'était le business, les relations commerciales entre les deux pays. Je pense que ça va forcément durer parce qu'il y a des vraies opportunités pour la France en Australie.
Absolument. C'est au cœur de ma mission. C'était au cœur de ma mission en Malaisie, un autre point commun. D'abord, je voudrais rendre hommage au travail qu'a fait Christophe Le Courtier ici. Et c'est vraiment un privilège de lui succéder parce que, à la fois dans la méthode, l'approche équipe de France et dans la conclusion des objectifs qui s'étaient fixés, ça me permet d'arriver, moi, dans un contexte qui est extrêmement favorable. Nos relations n'ont jamais été meilleures. La France et l'Australie, pendant de nombreuses années, s'ignoraient un petit peu. On a même eu, il y a 20, 30 ans, des relations qui étaient difficiles. Aujourd'hui, c'est une relation qui se développe à un rythme incroyable. Évidemment, tout ça se bâtit autour du programme des sous-marins. Hein. C'était une évolution majeure à laquelle Christophe, mais aussi l'ensemble de ce qu'on appelle l'équipe France, ont beaucoup travaillé. Mais il n'y a pas que les sous-marins, il n'y a pas que la coopération de défense et de sécurité. Il y a aussi tout ce qu'on fait dans le domaine culturel, éducatif, les échanges scientifiques, les échanges universitaires. Et évidemment, la diplomatie économique qui reste au cœur de mes préoccupations avec, comme vous venez de le souligner, des opportunités formidables, en particulier au Victoria. Melbourne est quand même la métropole qui se développe le mieux en Australie, et je pense qu'on a des opportunités à exploiter.
Ouais, Melbourne devrait être la première ville australienne d'ici peu de temps. Ça, c'est un des, apparemment des faits statistiquement prouvés. L'éducation, c'était aussi quelque chose qui était pleinement au cœur de sa mission. C'est aussi également quelque chose qui est au cœur de tous les Français ici, tous les francophones, mais également tous les Français. Il y a des enjeux, mais il y a des grosses opportunités également sur l'éducation.
Oui, bien sûr. C'est d'ailleurs un peu contre-intuitif de constater que l'enseignement du français progresse dans ce pays. La connaissance de la langue française progresse. L'appétit pour la France, l'intérêt pour la France progresse. Vous en êtes une illustration, puisque vous m'avez expliqué tout à l'heure que les programmes en français se développaient fortement. Oui, il y a une vraie opportunité. Alors, heureusement, on a déjà, depuis plusieurs années, constitué un réseau d'écoles, de lycées. On a le lycée, bien sûr, conventionné de Sydney, Condorcet. Mais on a un réseau d'écoles françaises et de collèges français et de lycées français qui sont soit homologués par l'AEFE, soit qui ont reçu le label France Éducation et qui se développent beaucoup depuis quelques années. Et ça, c'est certainement une de mes priorités, une des priorités de l'ambassade en général. Et dans le Victoria, aujourd'hui, cet après-midi, je vais signer avec le ministre d'Éducation du Victoria un accord sur l'éducation centrée sur le français. La coopération se développe bien. On a ici deux écoles et d'autres qui pourraient naître et qu'on doit encourager et soutenir.
Oui. Mais à travers le pays également.
Parce qu'on a et à travers le pays.
On a un programme national.
On a un programme national, absolument, qui marche très bien et qui se développe. Il y a une demande de France, y compris dans le domaine éducatif et scolaire, qui est de plus en plus importante. Alors, c'est le cas pour Adélaïde, par exemple.
J'allais y venir, parce que les fameux sous-marins, ça va forcément aussi amener un influx d'ingénieurs, de techniciens français dans la région d'Adélaïde. Donc, une certaine infrastructure doit être mise en place.
Absolument. Et puis, il ne faut pas oublier la caractéristique essentielle de notre réseau scolaire en Australie, c'est que ce sont des écoles bilingues. Donc, à travers ces écoles, on attire aussi un public australien qui, du coup, a des enfants qui se forment à la langue française, qui, pour certains d'entre eux, et j'espère de plus en plus, iront ensuite dans l'enseignement supérieur français. Et ça, c'est ça l'objectif, en fait. C'est évidemment d'offrir à notre communauté, parce que c'est un besoin fort, des conditions scolaires optimales, mais aussi d'attirer des Australiens dans nos cursus et de les envoyer vers l'enseignement supérieur français ensuite.
Est-ce qu'un des enjeux, je reviens un tout petit peu sur l'économie, mais c'est également de la politique, un des enjeux à venir qui seront sûrement présents lors de votre mandat ici, autour du Brexit, par exemple. On sait que le Brexit en Europe va avoir des répercussions, notamment pour l'Australie. La France a un rôle majeur à jouer dedans, de peut-être devenir le premier partenaire ou un des premiers partenaires et remplacer en partie peut-être la Grande-Bretagne comme porte d'entrée dans une nouvelle Union européenne.
Absolument. Dans la diplomatie économique dont on parlait tout à l'heure, l'attractivité, c'est une des priorités. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que l'ambassade, Business France également, doivent travailler pour convaincre les investisseurs australiens que la France est attractive, que la France se réforme, se transforme. Et le contexte du Brexit, c'est une opportunité pour nous, clairement. D'une part, parce que les Australiens se posent des questions. Que va devenir le Royaume-Uni ? Est-ce que c'est ce que vous disiez ? Est-ce que c'est toujours pour nous la bonne porte d'entrée pour accéder au marché européen ? Ensuite, parce que la France se transforme. Hein, c'est le mot qu'a employé le président de la République lorsqu'il nous a reçus pendant la semaine des ambassadeurs il n'y a pas si longtemps. La transformation de la France peut montrer aux Australiens que c'est un pays où ils peuvent investir, où dans la durée, le coût du travail, la fiscalité vont évoluer de manière beaucoup plus favorable. Et le Brexit, évidemment, nous donne une opportunité formidable. Mais il faut quand même savoir qu'on n'est pas les seuls à se dire ça. Donc,
je crois qu'il y a les Allemands également.
Les Allemands, et puis il y a d'autres places financières en Europe que Paris ou Francfort. Donc il faut être présent, il faut convaincre et il faut montrer que la France se transforme de manière durable.
Vous sentez, même si ça fait pas forcément très longtemps que vous êtes ici, mais cet amour de la France pour les Australiens, que voilà, nous, ça fait un petit moment qu'on est là et on le sent encore au jour le jour. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez remarqué, vous, dans vos déplacements, dans vos relations avec les Australiens?
Oui, je pense qu'il y a une demande de France. Je pense qu'on est... On est vu de manière très favorable parce que les gens commencent à réaliser que la culture française, la technologie française et peut-être aussi le modèle de défense français, pour ne pas le citer, offrent une bonne alternative ou plutôt une bonne option pour un pays qui veut diversifier ses relations avec l'Europe et avec l'Occident en général.
Je pense qu'il y a encore, alors ça c'est un avis d'un Français ici depuis un petit moment, mais il y a encore pas mal de boulot à faire sur la reconnaissance, à quel point la France impacte la vie des Australiens au jour le jour. C'est-à-dire, ça va du lait qu'on met dans ses céréales,
l'eau
qu'on boit, le bateau qu'on prend à Sydney pour traverser le tram. Ça, on sent l'Australien de base, entre guillemets, je mets les guillemets, se rend pas encore forcément compte à quel point la France est influente dans son quotidien.
Exact. C'est toute une partie du travail qu'on a mené. C'est une campagne d'image, en fait, pour expliquer au public en Australie, finalement, l'eau que vous buvez, enfin tout ce que vous venez de décrire, le tramway que vous prenez le matin pour aller travailler, tout ça c'est français et c'est ce que la France peut vous apporter. Et on y travaille, mais c'est un travail d'équipe, c'est un travail que l'ambassade ne fera pas toute seule. C'est un travail qu'on va faire avec la Chambre de commerce, avec les conseillers du commerce extérieur, avec tous les partenaires français. Et c'est là où je rends hommage aussi au travail qu'a fait Christophe Lecourtier avant moi, c'est qu'il a su insuffler cet esprit d'équipe. Et on va continuer à travailler évidemment dans cette direction et même renforcer.
D'accord. À quel point un pays comme la Nouvelle-Calédonie peut être aussi un allié dans la démonstration que la France est partenaire avec l'Australie et en fait n'est pas si loin que ça?
Oui, on est voisins en fait, nous sommes voisins.
Voilà, alors qu'ils ne sont pas avec la Grande-Bretagne par exemple.
Exactement. Et la Nouvelle-Calédonie, c'est intéressant parce que une des dimensions de la relation franco-australienne, c'est notre coopération dans le Pacifique Sud.
Absolument.
Alors, les moyens que nous avons en Calédonie ou en Polynésie sont, par rapport à l'Australie, sont petits, mais je pense qu'ils sont significatifs. C'est-à-dire qu'on apporte aujourd'hui un concours à l'Australie et à Nouvelle-Zélande en situation de crise, lorsque, par exemple, des catastrophes naturelles affectent les îles du Pacifique Sud. On met à disposition des forces, parce qu'on a des forces, et notamment les forces calédoniennes, pour gérer ces situations. Et je crois que les Australiens nous en sont très reconnaissants et qu'ils ont aujourd'hui une image extrêmement positive, ce qui n'était pas le cas toujours dans le passé, de la présence française dans le Pacifique Sud.
Oui, et de l'importance peut-être qu'elle y reste.
L'importance qu'elle y reste, absolument.
L'effet Emmanuel...
Sur la Calédonie, pardon, je voulais ajouter que une de nos missions, c'est aussi de faciliter les échanges économiques entre la Nouvelle-Calédonie et l'Australie. Et donc, on travaille beaucoup avec les autorités néo-calédoniennes pour faire en sorte que la promotion des intérêts néo-calédoniens, ça fait partie du travail de l'ambassade.
D'accord. Juste d'un point de vue politique, est-ce que vous sentez qu'il y a eu un effet Emmanuel Macron également ici dans les relations avec l'Australie, de penser qu'il y a peut-être un vent de modernité qui peut favoriser la France?
Il me semble que c'est le cas. Je l'ai vu notamment lorsque le président a reçu le Premier ministre australien très tôt dans son mandat, ce qui était un excellent signal. Au mois de juillet, il y a une couverture de presse assez exceptionnelle et je pense qu'il y a un effet Macron, en effet, et qu'on projette maintenant une image de modernité, de changement, qui va nous aider beaucoup dans ce travail de diplomatie économique.
Ah, vous savez, s'il vient ici, il est bienvenu chez nous.
Bien sûr, je suis certain qu'il viendra pendant son quinquennat.
Moi aussi. C'est un pari que j'ai fait hors micro avec d'autres gens, savoir s'il va passer ici ou pas. Moi, je pense que ça va être possible. Vous avez autre chose à rajouter sur les défis de ce qui est devant vous et puis sur votre approche par rapport à tout ça?
Non, finalement, si je devais résumer en une phrase ma mission, celle de l'ambassade aujourd'hui, c'est vraiment de mettre en œuvre ce partenariat stratégique renforcé qu'on a conclu avec l'Australie. Alors évidemment, il y a la dimension sous-marin, il y a la dimension défense et sécurité, mais mettre en œuvre dans toutes ces dimensions. c'est-à-dire, on en a parlé lors de cette conversation, la dimension culturelle, éducative, l'enseignement supérieur, les échanges entre universités, la recherche, l'innovation, les échanges scientifiques. Et puis aussi, moi je n'oublie pas qu'une partie de ma mission que je partage avec Nicolas Croiset, notre consul général, c'est d'apporter un bon service à notre communauté française. On est une communauté très importante en Australie. Il y a plus de 5000 Français dans le Victoria, par exemple. Et on s'efforce à travers toutes les réformes qui ont lieu en matière de dématérialisation des services aux Français, d'administration à distance, dans un contexte où nos ressources sont diminuées de plus en plus, d'améliorer ce service et d'apporter à nos compatriotes qui vivent ici, qui sont une communauté jeune, dynamique, entreprenante, tous les services qu'ils souhaitent.
Voilà. D'accord.
C'est ça l'essentiel.
C'est l'essentiel, c'est déjà un gros défi.
Merci.
bon courage, j'allais dire.
Oui. Mais j'ai une équipe avec moi, c'est ça la clé du succès.
D'accord.
C'est l'équipe.
C'est l'équipe, c'est bien s'entourer. Monsieur l'ambassadeur Christophe Penot, merci.
Merci à vous.
SBS en français. Partagez nos rubriques sur Facebook.